je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne.
Nicole Gibault.
J'en ai un ras-le-bol de ces gens-là.
À mon sens, c'est de l'intimidation.
Geneviève Peterson.
C'est sauve en marchette, on aura le temps de le rattraper.
La rencontre.
Ouais, mais toi, comme juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche?
Oui. C'est le juge.
La rencontre Gibault-Peterson.
Salut, Nicole.
Bonjour Geneviève.
Bon, j'avais Geneviève Guilbeault cette semaine à l'émission, là, le ministre de la Sécurité publique, pour nous parler de son bilan. C'était la fin de la session parlementaire. On a abordé la question du bracelet anti-rapprochement qui commence à être présent dans nos tribunaux, là, ce projet pilote dont on a abondamment parlé, toi et moi. Et là, on a une histoire où une juge a refusé ce bracelet-là à un multirécidiviste de la violence conjugale. Donc, ce monsieur-là, là, Pierre-André Doré, qui était accusé d'avoir brisé des conditions, une ordonnance de probation qui lui interdisait de se trouver chez son ex-conjointe et ce, à de multiples reprises. Et la défense plaidait, en fait, disait, ben écoutez, là, mon client peut sortir de prison puisque si on lui installe un bracelet électronique, on est assuré qu'il ne va pas briser ses conditions. Et moi, ce que je comprends de tout ça, c'est que la juge a dit, wow, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le bracelet anti-rapprochement, ça sera pas un passeport vers la liberté. Pour reprendre une expression pandémique consacrée.
Non, puis c'est extrêmement intéressant. Moi, je pense que cette juge a vraiment mis la table et bravo parce que c'est vrai qu'on ne pourra pas maintenant se servir à chaque fois de la demande de bracelet anti-rapprochement pour une garantie de sécurité. Qu'il s'approchera pas, il va briser. Mais là, il va peut-être briser ses conditions, donc on va lui mettre ceci. Mais on a un exemple parfait ici, là. C'est à de multiples reprises que cette personne-là, multiples reprises, on parle pas, là. Oui, c'est possible que quelqu'un fasse une erreur une fois, puis que le tribunal, ça m'est arrivé souvent comme juge, on comprend une situation, même la victime, allégué, dit, non, c'est correct, je comprends, bon, etc. Mm-hmm. Mais là, à multiples reprises, il aurait brisé ses conditions. Puis c'est pas n'importe quoi, là. Il a été accusé, c'est des crimes sérieux quand même, là. Il a été condamné aussi pour de la violence conjugale, oui. Une autre ex-conjointe. Il a purgé des peines jusqu'à une vingtaine de mois de prison. Puis là, ben, OK, il se rend là, ben, il dit de partir, puis il part, puis oups! Excusez-moi, mettez-moi un bracelet d'abord. Non.
Oui.
Ça marche pas comme ça.
C'est comme quand ma fille me dit, maman, laisse-moi rentrer à 3h du matin. Il n'y a pas de problème. Je vais activer ma localisation. Ouais, non. Ben c'est parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, ma belle chérie, là.
Non, ça fonctionne pas comme ça. Puis quand t'as un passé de cette façon-là, c'est parce que est-ce que le passé est pas un peu garant de l'avenir? Puis est-ce que c'est vraiment un bracelet? Oui, ça va sonner. Mais je peux juste m'imaginer la personne, la victime alléguée dans les circonstances. Ben ici, si c'est une ordonnance de probation, c'est parce qu'il a été condamné, là. Probation, ça va être une condamnation, donc c'est plus allégué. Alors, si effectivement on est encore dans ce système-là, c'est plus une question de sécurité, là. C'est parce que cette personne-là va toujours craindre. Alors, la seule solution, c'est pour quelqu'un qui veut se prendre en main, puis pour quelqu'un qui dit, oui, je l'accepte le bracelet, oui, je vais respecter les conditions, OK, parfait, on va le vérifier. On va mettre un bracelet de sécurité, de rapprochement, anti-rapprochement, et la personne de l'autre côté l'accepte. Mais là, on est passé ça avec un multirécidiviste. Donc, la juge a dit non. Vous en allez en dedans. C'est la seule façon qu'on va comprendre les choses. Et moi, je dis bravo parce qu'il faut vraiment agir catégoriquement en matière
de... Oui, il ne faut pas qu'on puisse utiliser cette possibilité-là comme un prétexte pour justement alléger des sentences, là.
Exactement. Alors ici, c'est non. Regarde, vous avez brisé à multiples reprises. Puis là, ça recommence. Puis OK, vous avez été gentil, vous êtes retourné. Quand elle vous a dit de vous en retourner ou de quitter, parfait. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mmh. Alors, on n'est pas pour mettre des bracelets anti-rapprochement puis déranger tout le monde.
Puis souhaiter le meilleur. Mais non, c'est ça. Ça sent pas... elle a mis son pied à terre, cette juge-là.
OK, oui. Puis je suis très heureuse de cette décision-là.
Un footballeur universitaire étudiant en sociologie à l'Université Concordia qui a été reconnu coupable de traite de personnes, notamment là, il aurait récolté jusqu'à 1 800 $ par jour d'une jeune fille qui était, de ce que j'en comprends, là, sa conjointe. Il était en relation amoureuse avec elle. Puis c'est vraiment un cas, Nicole, où cette jeune femme-là rencontre cet homme-là, André Brian Rose, dans un bar. Puis elle le dit, je crois, en cours, elle a témoigné de la chose suivante, qu'elle était tombée en amour avec lui au premier regard. Ils ont eu une relation amicale. Ça s'est développé plus tard en relation amoureuse. Ça a duré, je l'ai dit, environ 8 ans. Et à un moment donné, dans cette relation-là, il a commencé à avoir des allusions sur le travail du sexe. Qu'est-ce que tu pourrais offrir des services sexuels dans des spas, des salons de massage à Montréal et à Toronto? Est-ce que cet homme-là, qui était son chum, finalement, lui faisait miroiter à cette jeune fille-là? C'était l'idée de devenir tous les deux riches. C'est un projet de couple commun.
Mais c'est toujours, malheureusement, le fond de l'histoire. Mm. Et ils sont extrêmement judicieux dans leur approche. C'est incroyable. Ils font miroiter plein de belles choses. Et malheureusement, ces gens, les victimes tombent. Mais oui, c'est le cœur, souvent, qui fait tomber ces victimes-là, puis les promesses, puis les amours, puis les ci, puis les ça. Puis ça avance juste un peu tranquillement. On met juste un tout petit peu de miel à la fois. Et que, bon...
Oui, t'arrives pas du jour au lendemain, là, disant « Hey, ma chérie, pourrais-tu aller faire des clients dans une chambre d'hôtel? » C'est pas comme
pas
ça, là.
Tout.
Ça s'installe.
Ça puis en plus, non seulement c'est pas comme ça que ça arrive, mais une fois que l'appât, elle a pris l'appât, malheureusement, de cet homme-là, ben là, c'est rendu maintenant quasiment des... Pas quasiment, ce sont des menaces. Ben là, je vais plus te voir, je veux te... Tu sais, elle est accrochée, je t'aime plus. Si tu veux me revoir, il faut que... Alors, c'est malheureusement un pattern, on m'excuse l'expression, là, mais qu'on retrouve assez...
Un modus operandi.
Un modus operandi qu'on retrouve régulièrement. C'est très dommage. Moi, j'ai envie de dire que ça, on en parle souvent, là, et on en parlait souvent, l'éducation, mais très, très jeune. Je comprends qu'on va pas dans les écoles dire, ben, écoutez, attention, les proxénètes, etc., quand on a 6, 7, 8 ans. Mais à un moment donné, je sais pas quel âge, c'est quoi l'âge idéal pour parler de ça, puis d'essayer de
quand tu rentres au secondaire, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à en parler, selon moi. Puis le problème, c'est qu'on est beaucoup dans le cliché, donc les ados roulent un peu des yeux. T'sais, ils ont écouté là, les fugueuses, les Noémie dit
oui, c'est vrai.
Mais les proxénètes raffinent leur technique, donc c'est de ça dont il faut parler aussi. Moi, en tout cas, puis c'est très personnel, c'est le pari que j'ai pris avec mes enfants. T'sais, on a la chance de faire un métier, Nicole, où on réfléchit beaucoup, où on parle à des intervenants auxquels les autres parents n'ont pas accès nécessairement aussi. Puis c'est de parler de ces écueils-là. C'est de dire, t'sais, ça se pourrait que tu t'en rendes pas compte, que tu te fasses embarquer par quelqu'un que t'admires, par quelqu'un que tu aimes. T'sais, plutôt que parler du gros cliché, là, il va arriver, là, il va t'offrir d'aller t'acheter une sacoche au Gilvy, puis de faire un tour de Porsche, là, parce que les enfants ne croient pas.
J'ajoute ici dans ce dossier-là que c'est intéressant parce que la juge, elle a cru la version de la victime. Tu sais, on entend souvent des victimes qui sont pas parfaites et réussissent pas, là.
C'est ça.
Ben, elle l'a cru, la victime, et elle le dit, même si son témoignage, ça fait une couple de fois que j'entends ça à la magistrature, je pense que ça a passé le message de la victime parfaite, là. Alors, on dit non, on n'a pas besoin d'être une victime parfaite. Et ici, elle c'est ce qu'elle a dit. C'est pas parce que son témoignage n'était pas parfait qu'elle n'est pas victime. Alors, les chefs d'accusation de proxénétisme, traite de personnes, menace de mort et voie de fait. Alors, il était très contrarié, ce monsieur-là, mais encore une fois, après avoir trouvé coupable le monsieur, je me pose toujours la question, pourquoi on pose pas la question, est-ce qu'il n'y aura pas lieu de le détenir tout de suite? Je sais pas pourquoi. Moi, je sais que je pesais sur le piton de la détention peut-être plus rapidement, là. Au moins, je posais la question. Mais là, il faut qu'il revienne en septembre prochain pour la sentence. Puis visiblement, il était très contrarié. J'espère qu'il arrivera rien là, d'ici à septembre.
Je suis assez d'accord. Nicole, c'est la dernière fois qu'on se parle en onde à cette émission. Je voulais te remercier pour ta présence quotidienne pendant ces 2 années quand même. Hein? Et te dire à quel point j'avais appris des choses avec toi. Puis je t'explique. Puis vraiment, je le pense sincèrement, là, tu sais, quand il y a des dossiers qui nous habitent, des dossiers qui nous portent, puis je pense entre autres au dossier, tout ce qui a touché le mouvement MeToo, la violence conjugale, ce sont des dossiers qui viennent nous chercher jusque dans nos tripes. Puis tu sais, parfois on a des réflexions sur ce qui se passe qui justement tiennent de l'émotion. Et j'ai vraiment trouvé que tu as réussi à nous faire prendre des prises de conscience, puis à moi personnellement aussi, là, sur comment ça fonctionne, l'appareil de justice, quand il faut séparer justement les émotions des lois, alors qu'on fait face à des dossiers où il y a de l'injustice. Puis surtout, bon, on a parlé beaucoup du tribunal spécialisé aussi ensemble, tu sais, de mettre son militantisme de côté pour peut-être écouter ce qui ressort de tout ça. Je peux dire que tu m'as redonné confiance dans l'appareil judiciaire.
Ben mon Dieu, c'est super gentil de me dire ça,
mais c'est
je
vrai.
Dois te dire que c'est réciproque. Oui, je le sens. Et c'est réciproque parce que c'était intéressant de jaser avec quelqu'un qui, non, n'a pas de formation et comme tel, et représente fièrement la population, l'écoute de la population, les gens en général, puis me transmettait quasiment les mêmes questions, puis me permettait peut-être des fois, tant mieux si ça passait avec toi et avec d'autres auditeurs et auditrices, de vulgariser cette situation-là, puis défendre l'indéfendable, je suis pas capable. Fait qu'il y a des fois que j'étais pas capable de dire quoi que ce soit sur le système de justice, même si je pense qu'il fallait défendre certains points puis l'expliquer. Alors, merci à toi de m'avoir donné cette occasion-là aussi pendant ces deux belles années.
On se dit bye-bye, Nicole.
Bye.
C'est sûr qu'on se revoit. Bye-bye.
Bonne,
bye.
Oui. Bonne chance pour les prochaines années.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.